Bonjour à toutes et à tous. Dans le mag aujourd'hui, l'obsolescence programmée avec Marion pour sa chronique. Calmez-vous, ça va bien se passer. Mais pour recommencer, après Roxette, The Look, un jeune Aveyronnais passionné de photos et de météo qui chasse les orages. Et vous le savez d'ailleurs, la saison a déjà bien commencé.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
She's got the look.
What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you.
She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasting like a raindrop. She's got the look.
And she goes.
CFM, le mag, côté orage, on est pas mal servi depuis plusieurs semaines en Aveyron. Le tonnerre, la foudre. Moi, j'ai tendance à essayer d'éviter. Romain Laval, lui, les recherche, les chasse pour en faire de belles photos.
Oui, oui, oui. Alors, on est gâté par le gros temps, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'effectivement, on a un déluge d'orages qui s'abat sur les départements de l'Aveyron et qui se rapproche de l'Aveyron. Donc, effectivement, on est pas mal gâté, surtout quand on est photographe de phénomènes météo comme cela. Ouais.
Pour vous, oui, la photographie météo, c'est votre passion, Romain. En ce qui concerne justement la photo et le ciel, l'orage, c'est vraiment le truc ce qu'il y a de plus beau, le plus spectaculaire, qui fait les plus belles photos.
Alors en fait, l'orage, c'est quelque chose qui sort totalement de nulle part, on va dire. Bon, après, nous, on a des choses pour calculer, pour un petit peu calculer la trajectoire, tout ça, quand est-ce que ça va arriver. Personnellement, après, il y en a d'autres qui peuvent avoir des préférences, mais moi, personnellement, l'orage, le phénomène orageux, c'est un de mes phénomènes préférés, puisqu'effectivement, il y a de la lumière, il y a du son, et c'est pas un simple nuage qui est plat et qui envoie de la pluie. C'est un nuage qui vit, c'est un nuage qui émet donc du son, du tonnerre, qui émet de la lumière, et c'est pour ça que moi j'apprécie de le photographier et de mettre en valeur les paysages aveyronnais ou les paysages d'autres départements.
Et alors l'orage, bon c'est vrai que c'est beau, mais surtout quand on est bien à l'abri, mais vous c'est peut-être pas toujours le cas puisque vous les recherchez pour faire de belles photos. Ça peut être aussi dangereux, vous avez déjà dû avoir peur.
Oui, je me suis déjà fait des frayeurs, hein, tout à fait, comme beaucoup de mes collègues. Effectivement, on les recherche. C'est quelque chose qu'on apprécie. On est tout le temps à l'affût quand on est passionné. Après, effectivement, c'est toujours en respectant quand même les paramètres de sécurité. Donc, avoir une voiture, essayer de se protéger quand ça se rapproche trop. Après, on joue forcément avec l'orage. Donc quand on joue, il faut savoir qu'on peut se faire peur et ça peut tomber à 50 mètres, 100 mètres, ça peut, ouais. Donc on se fait peur, oui, mais c'est le jeu.
Ouais. Et alors oui, vous parlez de la voiture parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que enfermé dans une voiture, ça fait cage de Faraday et on est tranquille.
Tout à fait.
Il peut rien nous arriver.
Tout à fait. Tout hein? à fait.
Alors cette nuit, bon, c'était chez vous les beaux orages à Decazeville, donc vous n'êtes pas allé les chercher bien loin. Mais sinon, puisque c'est votre passion, j'imagine que quand il n'y en a pas dans le coin, vous les cherchez là où ils sont, quoi. Comment vous faites? Parce que les orages, moi par exemple ce matin en Aveyron, c'était pas prévu, quoi. Enfin hier soir, il me semble pas qu'ils avaient annoncé, hein.
Alors, en fait, le souci, c'est qu'un orage, ça reste un phénomène qui est très compliqué à comprendre. Donc, en termes de météorologie, c'est très compliqué à prévoir. Donc, les orages, nous, on les prévoit grâce à des modèles météorologiques, etc. Après, par exemple, ça nous arrive souvent d'avoir les modèles météorologiques qui ne prévoient aucun orage sur une zone bien spécifique. Et le lendemain, on se retrouve avec 10 orages qui passent sur le département. Effectivement, les orages, on les cherche, on les traque, mais on peut faire des centaines de kilomètres. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire 700 kilomètres en un jour pour traquer la foudre. Ouais.
Roman Laval, on l'a compris, cette passion pour la photographie du ciel et des orages en particulier, c'est pas encore votre métier. Bon, vous avez 20 ans en même temps, donc vous avez le temps, mais c'est votre souhait?
Alors, moi récemment, je suis pas du tout dans le même en termes de métier. Moi, je suis dans la personne, dans l'accompagnement des personnes handicapées ou âgées. Après, par contre, effectivement, j'ai récemment passé un concours externe chez Météo France pour essayer de rentrer à l'école pour suivre des études d'ingénieur, par exemple, ou de prévisionniste. Et donc, effectivement, mon souhait, ce serait effectivement allier la photo et plus amplement comprendre ces phénomènes qui sont de plus en plus violents, faut le dire, et donc du coup essayer d'aider les sites météorologiques et faire des recherches effectivement sur le gros temps, on va dire.
Ouais, parce que vous mêlez à la fois, bon, c'est une passion, mais enfin c'est quand même des connaissances qu'il faut avoir. Un, la photographie, c'est pas facile, hein, même si tout le monde fait des petites photos avec son téléphone aujourd'hui, être photographe, c'est autre chose. Et puis alors, travailler au prévisionniste chez Météo France, ouais, c'est une formation d'ingénieur, hein, pas moins. Hein.
Oui, tout à fait. Enfin, après, c'est vrai que bon, moi, j'ai passé un concours qui est, bon, après le bac, que tout le monde peut faire, entre guillemets, mais il faut effectivement avoir les connaissances en termes de, on va dire, en termes scientifiques. Après, tout le monde peut, j'ai envie de dire, tout le monde peut faire ça, avoir un appareil photo, aller photographier les orages, avoir les bons outils qu'il faut. Ce qu'il faut, je dirais, surtout comme maîtrise, c'est la maîtrise du terrain, déjà. Quand on va chasser un orage, il y a des départements qui sont mieux placés que qui sont un peu plus plats, où on a plus de points de vue, etc. Et puis surtout la maîtrise du risque, parce que ça demande quand même une connaissance du risque, faut que ce soit important, la connaissance du risque, parce qu'un orage, c'est quand même 30 000 volts, 60 000 degrés, et je ne sais combien d'ampérages. Donc voilà, après, effectivement, on a, nous, des radars, donc qui regardent en temps réel les précipitations, des radars qui nous permettent de détecter où est la foudre précisément. C'est ça, c'est donné à tout le monde. Après, il y a tout ce qui est les calculs, donc pour estimer, pardon, l'instabilité, etc. Ça, ce sont des calculs un petit peu plus approfondis. Mais de toute manière, quand on s'intéresse aux orages, on finit toujours forcément par s'intéresser au côté plus technique de la chose.
Alors vous avez parlé d'endroits où il y en avait plus que d'autres, départements notamment, des orages. Alors l'Aveyron, on est comment ? C'est un bon pays de l'orage et de la foudre ou pas ?
Bien sûr, mais disons que c'est un peu comme tous les départements. Moi, quand je fais une photographie d'orage, je cherche toujours à avoir la photo de l'orage, mais le plus possible d'avoir une photographie où c'est qu'il y a une composition derrière. J'essaye toujours d'allier le paysage avec cette foudre qui frappe le sol. Après, l'Aveyron, forcément, on est dans un axe qui est plutôt intéressant au niveau des orages. Après, il y a évidemment plus de départements qui sont foudroyés chaque année que d'autres. Le truc qui est un tout petit peu plus compliqué dans mon département, c'est que c'est pas mal vallonné. Et donc du coup, le plus gros travail, je dirais, en photographie, c'est la composition et surtout trouver des points de vue. Toujours essayer d'être original dans les photographies, je trouve ça important.
Alors quand on est passionné, on vit sa passion à fond, et bien au-delà de nos départements, voire même de la France. Et bon, alors des orages, il y a des pays de l'orage, hein. Moi j'ai entendu parler du Venezuela, où il paraît que c'est quasiment tous les jours certains endroits. C'est quoi pour vous la région ultime où aller pour avoir les plus beaux orages, les plus beaux coups de foudre au sens météorologique du terme, hein. Le reste ne me regarde pas, Romain. C'est où votre rêve pour aller faire de belles photos?
Oh ben c'est bien évidemment, je dirais, les États-Unis. Faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une fameuse zone qu'on appelle la Tornado Alley, donc l'allée des tornades, où chaque année, il y a, je dirais, les orages les plus violents de la planète qui se produisent grâce à un cocktail d'air chaud et d'air froid qui se produit entre avril et juin-juillet, par là. Et effectivement, ces plaines-là, vers le Kansas, Texas, Oklahoma, plus du côté de l'est des États-Unis, c'est une zone où il y a pas mal de personnes qui exercent la même activité que moi, qui y vont chaque année. Effectivement, moi, mon but, potentiellement pour l'année prochaine, voire un peu plus tard, ce serait effectivement d'aller côtoyer ces plaines américaines avec cette puissance qui se déchaîne et voir un petit peu un peu plus gros.
En attendant, les photos que vous avez déjà prises, notamment les toutes dernières cette nuit là de Cassville, j'imagine que vous les gardez pas que pour vous. On peut les voir où, nous?
Oui, non, je les garde pas que pour moi, effectivement. Alors moi, en fait, je suis c'est vrai que je poste souvent mes photos sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, voilà, les réseaux un petit peu classiques, on va dire.
Ouais.
Et puis après, moi, j'ai un site internet. Donc voilà, il faut simplement taper Romain Laval photographe, et j'essaye de poster des photos régulièrement avec des compositions qui en valent la peine.
Romain Laval photographe, ça c'est pour le site internet, et pour la page Facebook ou Instagram, on tape quoi pour vous trouver?
Romain Laval, tout simplement.
Romain Laval. D'accord.
Ouais, j'ai fait au plus simple.
Eh ben c'est bien, c'est ce qu'il faut. Dernière question, Romain, là, puisque je vous tiens et que vous êtes passionné de météo, les prochains jours, ça s'annonce comment?
Alors les prochains jours, ça s'annonce un petit peu plus calme, donc ça veut dire pas de gros temps pour moi en vue, vu les modèles que moi j'ai pu regarder là ce matin sous la dominance d'un anticyclone. Donc effectivement, pour le moment, pas de temps en Aveyron, ça va être un petit peu plus calme, même avec apparemment un petit risque de canicule. Mais effectivement, qui dit canicule dit forcément gros temps prévu après.
D'accord, bon, en attendant, vous allez pouvoir dormir complètement la nuit, pendant au moins quelques jours.
Tout à fait, c'est ça, complètement.
Merci beaucoup, Romain.
Merci à vous.
À suivre dans le mag, calmez-vous, ça va bien se passer avec Marion. C'est juste après David Bowie, The Man Who Sold the World, sur CFM Rhodes. We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone.
kissed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
CFM Rodez.
Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marion et vous écoutez la chronique « Calmez-vous, ça va bien se passer » qui parle d'écologie et de féminisme. Aujourd'hui, nous allons aborder l'obsolescence programmée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, en fait, c'est tout simple. L'obsolescence programmée est une stratégie des entreprises pour rendre un produit inutilisable au bout d'un certain temps. Clairement, ils fabriquent des produits pour qu'ils tombent en panne et deviennent obsolètes. Plusieurs produits sont mis en cause, comme les voitures, les ordinateurs, les télés, les objets connectés, les logiciels et même les vêtements. Je suis sûre que vous avez déjà connu ça, c'est obligé. Je me souviens que ma mamie, quand j'étais petite, avait une très vieille télé. Vous voyez là les grosses télés avec un tout petit écran qui prennent une place énorme. Bref, les années ont passé et j'ai toujours vu cette télé dans le salon, qui vieillissait en même temps que toute la famille. Bon, il faut dire que ma mamie vit à la campagne et que la technologie n'a jamais été son fort. D'ailleurs, elle n'a jamais voulu avoir Internet. Et vous voyez cette télé, ben elle a vécu très longtemps. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 25 ans. Et cette télé est plus vieille que moi, c'est certain. Bon, aujourd'hui elle l'a changée, mais elle a quand même duré un quart de siècle au minimum. Est-ce qu'on peut en dire autant aujourd'hui ? Je ne crois pas. Il y a une raison toute simple. Les entreprises mettent en place volontairement l'obsolescence programmée sur leurs produits parce que cela encourage la vente de nouveaux produits plus souvent et rapidement. C'est un sacré retour sur investissement pour les entreprises finalement. Bon, ils veulent faire du chiffre, on ne va pas les blâmer pour ça, c'est le jeu. Surtout que la durabilité artificielle n'est pas interdite par la loi. Et même si elle n'est pas interdite par la loi, cela pose quand même un sacré problème de moralité, non ? Bref. Alors, sous quelle forme se décline l'obsolescence programmée ? Encore une fois, c'est très simple. Les entreprises utilisent des matériaux de qualité inférieure. Ou alors, ce sont des produits qui sont impossibles à réparer ou à remplacer. Voilà encore une belle preuve de la culture du jetable. Ceci dit, il y a quand même une petite avancée sur l'obsolescence programmée. En 2017, le Parlement a adopté la résolution sur l'allongement de la durée de vie des produits. Clairement, c'est une incitation financière pour les entreprises qui fabriquent des produits durables, de qualité et faciles à réparer. C'est déjà mieux que rien, mais bon, difficile de s'en contenter. Mine de rien, cette obsolescence programmée a de gros impacts sur l'environnement. Déjà, le fait de consommer davantage engendre des déchets électroniques ahurissants. En 2019, il y a eu 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques. l'équivalent de 1,7 tonnes par seconde et de 7,3 kg par personne en moyenne et par an. Donc, chaque personne de cette planète produit 7,3 kg en moyenne de déchets électroniques par an. C'est fou. De plus, la production toujours plus intensive de produits électroniques épuise les ressources de notre planète. En effet, ça nécessite une exploitation intense de matières premières, comme certains métaux qui sont rares. Tout le processus d'extraction et de transport de ces matières que l'on doit aller chercher toujours plus en profondeur demande une grande quantité d'énergie. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que les ressources de notre planète ne sont pas inépuisables. Alors comment faire ? Là encore, c'est très simple. Ne vous inquiétez pas, la solution n'est pas forcément de vivre comme au 19e siècle. Mais il y a quand même quelques réflexions à avoir. Déjà, vous pouvez demander une garantie qui couvre les produits en cas de défaillance. Ensuite, vous pouvez acheter des produits où il est possible de changer des pièces et des pièces qui sont facilement trouvables. Vous pouvez aussi vous diriger vers des entreprises qui recyclent les appareils électroniques et qui les revendent. On les appelle les appareils reconditionnés. Enfin, le principal, c'est de soutenir des marques durables qui créent des produits de qualité. Attention, le prix n'est pas forcément gage de qualité et de durabilité. Et sinon, il y a toujours le marché de l'occasion pour vous satisfaire. Ça permet de réutiliser des produits qui fonctionnent parfaitement à moindre coût. On peut dire que ce sont des déchets en moins. Il y a finalement toujours des solutions pour faire mieux. Cela demande du temps, de la recherche et de la réflexion. Mais après tout, c'est notre boulot à nous de consommateurs, non ? Je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Comme, est-ce que j'en ai réellement besoin ? C'est vraiment la question cruciale. Bon, je vous dis à bientôt et calmez-vous, ça va bien se passer.
Merci Marion, on se retrouve dans deux semaines. Toutes les chroniques précédentes de Calmez-vous, ça va bien se passer sont à retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Voilà, on arrive à la fin du Mac pour aujourd'hui. On se retrouve bien sûr demain, même heure, pour une nouvelle édition. On se quitte avec Evelai, Franz Ferdinand sur CFM Rodez.